Eh ben voilà, c'était donc Enya avec Orinoco Flow, une chanson qui a été très connue. On l'entend plus tellement, Enya.
On l'entend encore de temps en temps, mais c'est vrai que ça devient rare.
Ça devient rare. Ouais. Hein. C'était une très chouette musique, une très chouette chanteuse, très bonne musique. C'est c'est de l'extrait de Arbre, non ? L'album, je crois.
Je pourrais pas répondre.
Je pense bien que c'est de l'album Arbre, me semble-t-il. On ne sait pas. De toute façon, c'est pas très important.
Ah, il était présent sur l'album Watermark.
Ah oui, Watermark. Voilà.
Sorti okay. En 89.
Donc, mais nous sommes toujours avec Catherine Berthe et nous parlons donc de la psychanalyse corporelle. Et on venait de dire, juste avant la musique qui vient de passer, on a parlé justement de passé et d'instant présent. Donc, c'est-à-dire de la vie. Mais pendant que la musique passait, nous avons parlé. Et vous m'avez dit qu'en fait, le passé n'existe pas d'après vous, ou en tout cas n'existe plus, c'est ça ?
Le passé, il nous teinte en permanence. Au contraire, on est tout le temps en train de le répéter. Mais on n'a aucune certitude sur... c'est un point de vue qui est lié à l'histoire. Et donc, un instant qui vient effectivement d'avoir lieu, il ne sera pas le même vu par vous ou vu par moi, puisque nous n'avons pas la même histoire.
On n'a pas le même point de vue, le même vécu, etc., etc. Donc on va le recevoir, autrement. D'où le principe de dire, si tu étais à ma place, tu ferais quoi ? Ben, je ferais la même chose que toi, puisque je serais toi. Vrai ou pas ?
On ne pourra pas l'essayer, là, tout de suite.
Non, ça c'est clair qu'on ne pourra pas l'essayer tout de suite. Alors donc, on a parlé également, vous insistez sur l'instant du quotidien.
Oui.
Donc vous travaillez principalement là-dessus, je suppose, ou exclusivement là-dessus.
Donc, la psychanalyse corporelle, elle va être composée de deux parties, je dirais. Une partie où on va vraiment travailler le revécu corporel de l'histoire personnelle. Et puis, nous allons accompagner les personnes dans le quotidien, en ce sens qu'on va leur proposer des petits jeux, des petits rendez-vous, pour apprendre à voir à quel point ils répètent le passé. Et donc, cette curiosité, c'est un jeu de curiosité sur le quotidien, pour pouvoir mettre à jour ce subconscient dans le présent.
Alors bon, pour faire concret, la psychanalyse corporelle, ça s'adresse à qui ? Quel est le profil des personnes ?
Eh ben, ça s'adresse à tout un chacun qui a envie de mettre du sens sur ce qui se passe au présent. On répète tous un schéma, d'accord, mais on a tous des tracas. Je vous disais, moi, c'était une frustration par rapport à la manière dont je pouvais être une maman technique. Et puis, on a tous une problématique d'échec, ou dans l'affectif, ou dans le professionnel, ou dans les petits événements qui nous arrivent, les tracas de santé, et dire, mais c'est toujours la même chose qui m'arrive. Et en ce sens, voilà, c'est tout un chacun qui veut décoder son présent, qui veut mettre du sens sur son présent. C'est la première chose qu'on puisse faire, c'est « Oui, mais je suis qui ? Je suis fait de quelle histoire ? Comment ça se fait que ça m'arrive en permanence ?»
Ok, donc il faut déjà que la personne prenne conscience que les choses se répètent chez elle.
Oui.
Ça, c'est une chose. Et puis, il faut qu'elle sache que vous existez. Ça, c'est déjà deux. Et puis, il faut qu'elle fasse la démarche. Ça fait déjà trois. Alors, elle prend conscience que la psychanalyse corporelle existe. Elle frappe à votre porte. Toc, toc, toc. « Bonjour, Madame Berthe. Comment ça se passe ? Dites-moi. »
Eh bien... Voilà, on passe effectivement un petit temps pour faire un peu un bilan des attentes personnelles, voir si effectivement c'est bien la représentation qu'ils en ont. Et puis après, on propose une session, je dirais, de découverte, de rencontre avec la technique, parce que c'est une technique qui va utiliser non pas le lapsus verbal, comme les psychanalystes verbaux, mais des lapsus corporels. Et donc, voilà, nous prenons un temps de travail où, couché au sol, on va donner la parole au corps et on va laisser faire, observer, suivre le corps dans ses mouvements, dans ses tensions, pour pouvoir révéler l'histoire.
Alors, quand on parle de lapsus verbal, c'est quand on dit ma mère et qu'on parle de ma femme, c'est ça ?
Par exemple.
Ok, et alors un lapsus corporel, ça se présente comment ?
Alors, la psychanalyse corporelle est faite de 7 niveaux de revécu. Dans les 4 premiers niveaux, il s'agit d'un revécu qui va traverser à la fois des mouvements sans sens, ce qui nous permet de repérer que le corps a la parole et que le cerveau, le mental va être spectateur du corps. Et dans ce lâcher prise, eh bien, il va y avoir des mouvements, des sursauts, réflexes, des mouvements instinctifs réflexes qui nous échappent. Et on va les observer. Petit à petit, si on ne les juge pas, ils vont se répéter, monter en intensité. Et puis ça va devenir peu à peu des mouvements concrets qui vont revivre, ou on va revivre des instants du passé. On va se voir à 5 ans en train de pédaler sur un petit vélo rouge. On va se voir, accroupi sous une table, replié sous une table ou en attendant le bus. On va avoir des flashs, comme un album photo qui donne déjà un goût de ce qu'on était dans une famille. Et petit à petit, cet album photo, ces photos vont se mettre en mouvement, ce seront de petites séquences comme des courts-métrages pour petit à petit enfin arriver à ce que nous appelons une scène traumatique, une scène où nous avons été mis dans des circonstances, par la vie, par la famille, mais c'est une éducation de la vie qui nous fait apprendre les lois des humains sur Terre, et on va rentrer dans un instant concret où on a pris des décisions par rapport à ces circonstances et où on a scellé notre personnalité.
Alors bon, vous avez donné plein de termes techniques. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien prendre un cas concret qui n'en est pas un. Prenons une petite fille, donc elle se trouve dans une famille et elle a plutôt tendance à prendre des coups de son père, de sa mère ou des deux. Et puis elle devient plus grande à l'école, on a un peu tendance à la récréation à lui donner des coups aussi. Et puis elle rencontre son premier amour qui est un peu violent verbalement avec elle. Et puis elle se marie, elle tombe sur un mari qui est un peu violent, etc., etc. On retombe toujours dans le même sillon.
Oui, vous avez compris le principe, c'est quand on a été forgé, on a tendance, et c'est une tendance, à répéter inévitablement un scénario.
Alors on répète le scénario parce que, en fait, cet enfant naît dans une famille. Alors bon, évidemment, vous pouvez dire que la famille, elle n'est pas née pour rien dans cette famille-là. À ce moment-là, on se demande, ça devient compliqué pour le hasard. Mais bon, elle naît dans cette famille-là, faisons simple. Mm-hmm. Et puis, elle va répéter des choix, parce que ses petits copains, etc., ses premiers amours, son mari, etc., etc., ça, c'est des choix.
Oui.
Alors, conscient ou inconscient, mais des choix quand même. À un moment donné, cette personne se dit, moi, je commence à en avoir marre de prendre des coups de tout le monde. Je prends conscience que je ne rencontre que des gens qui me frappent, ou en tout cas qui sont violents, que ce soit verbalement ou physiquement. Elle vient chez vous, qu'est-ce que vous faites pour cette personne? Elle vous explique ça, elle dit voilà, moi j'en ai marre de me prendre les baffes, qu'est-ce que je peux faire?
Eh bien déjà, c'est aller rechercher par le corps un instant racine où il faut comprendre que dans ces instants racines, on va réenvisager une scène traumatique et on va capter tout le sens de pourquoi ça ne pouvait pas être autrement dans cette famille, pourquoi généralement il y a une énorme générosité de l'enfant pour protéger un des parents, pour protéger quelqu'un dans la famille ou simplement se protéger soi. En fait, ce que l'enfant protège, c'est son équilibre psychique. Il a des élans et pour ne pas devenir fou parce qu'il a le choix entre deux camps, et ces deux camps sont antagonistes. Par exemple, si je prends le traumatisme de l'enfance, où on va vraiment être forgé par rapport au plaisir et aux lois familiales par rapport au plaisir, il va être en face de deux forces antagonistes, ou le plaisir ou la honte. Et ces deux forces, l'une et l'autre juxtaposées, sont intenables. Il ne peut pas faire un choix entre les deux. C'est à devenir fou. C'est une petite fille qui est dans une sensualité. On a des cas comme ça où ils sont cités dans certains livres sur la psychanalyse corporelle. Petite fille qui est vraiment dans un plaisir énorme, plaisir du vent, plaisir de la sensualité. Elle va devoir renoncer à ça simplement parce que sa maman, ne supportant pas le plaisir, la regarde comme une catin. Et pour ne pas perdre le regard de maman, cette petite fille, c'est un cas concret, elle va dire « Bon, ben, pourtant, j'ai rien fait de mal. Pourtant, non, comment je vais faire pour vivre sans cette sensualité? Mais c'est pas possible, je vais devenir dingue. » Et ben pourtant, pour ne pas perdre sa maman, parce que à 3, 4 ans, c'est trop difficile d'envisager cette situation, elle va renoncer au plaisir pour rassurer maman, pour faire plaisir à maman, pour ne pas perdre maman et ne pas devenir folle elle-même.
Mais ce renoncement à 4 ans, je suppose qu'avec les années, elle va oublier.
Elle va oublier
qu'elle a renoncé.
Mais elle va oublier qu'elle a un jour été une petite fille de sensualité. Et donc ça fait une femme, le cas dont je parle, c'est une femme qui, dans sa vie d'adulte, est une femme super efficace, qui assume un secrétariat, sur qui on peut compter, et qui, dans sa vie, n'a aucun plaisir. Et qui, donc dans sa vie amoureuse, n'a jamais aucune envie et aucun plaisir avec son mari, de telle sorte que au final, arrive ce qui devait arriver. Le mari trouve une personne qui le satisfait plus et finit par divorcer.
C'est ça.
Et donc, c'est mettre du sens
qu'il y a un souci.
Que ça n'était pas un problème de couple. C'est un problème personnel qui a généré tout ça. Mmh. Et donc, petit à petit, elle va pouvoir remettre une sensualité, petit à petit, une vie normale qui prend du goût.
Alors, donc, quand vous dites on va remettre de la sensualité, on parle de cette personne-là, évidemment. Oui. Une autre, ce sera autre chose.
Une autre, ce sera autre chose.
Une autre dira, moi, de la sensualité, j'en veux pas, parce qu'elle a cette nature-là.
Bien sûr.
Et donc, ça sera peut-être l'inverse. Peut-être que le père voulait que sa fille soit vraiment une fille. Là, avec des garçons, il veut une fille. Elle va avoir une sensualité qui n'est pas la sienne, et qui, à un moment donné, elle va dire, mais moi, c'est pas moi. En fait, moi, je suis plutôt style sœur, façon de parler, pour donner une image. Et elle va retourner vers ça.
On a tous, vraiment, 50% de notre être qui a été oblitéré pour sauver une situation. Et donc, chacun, on sait inconsciemment qu'il nous manque quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc, la psychanalyse corporelle, c'est ça, en fait. On va donner accès à d'où ça vient que j'ai toujours ce comportement-là, qui me dérange, mais que je ne comprends pas. Et elle va donner accès à autre chose, c'est qui j'étais avant. Et petit à petit, on va pouvoir se réapproprier ça dans sa vie quotidienne.
Donc, c'est quelque part, c'est une personnalité usurpée, quoi.
Non, c'est une extinction progressive de toute une faculté d'être, mais c'est pas de l'usurpation, c'est pour sauver son être qu'on fait ça.
Enfin, c'est terrible, parce que vous n'êtes pas vous. Réellement, on n'est plus soi.
On est bien plus petit que ce qu'on voudrait. Eh ben, on va effectivement réélargir un peu le
spectre.
Le spectre de faculté d'être.
Mmh. J'aimerais bien qu'on rentre dans le détail de savoir comment ça se passe concrètement, donc physiquement, ce qu'on doit faire, etc. Mais on va refaire une petite pause musicale parce que on parle bien ensemble, c'est chouette. Ah, Christophe, on parle bien, hein?
Tout à fait,
ça
oui.
Ça se passe bien. On va repasser un deuxième morceau. On va passer Sting, qui est également un choix, qui est Englishman in New York. Notre ex-chanteur de
Police.
Exactement, 10 sur 10. Allons-y pour Sting.